Merci à l'équipe Louange. Tellement content de se retrouver, de louer le Seigneur ensemble, d'adorer Dieu. Quel bon temps dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui est génial quand on stoppe tout pour louer Dieu, pour l'adorer, pour l'élever, que ce soit chez soi ou bien que ce soit ensemble comme ce matin. Je crois que c'est tellement bon de vivre ces moments-là. Et ce que j'aimerais dire, c'est que dans le bon sens du terme, c'est que Dieu est un grand sensible et ça le touche. Ça le touche. Quand il entend les mots qu'on chante, quand il perçoit nos cœurs qu'il aime, ça lui fait fondre le cœur. Il n'est pas un Dieu lointain, indifférent, mais ça le touche. Il aime tellement nous entendre lui dire qu'on l'aime aussi. Quand quelqu'un qu'on aime nous dit aussi qu'il nous aime, ben Dieu nous aime tellement, mais quand on le lui dit aussi en retour, ça le touche. Et ce matin, son cœur bouge, son cœur bat. Et voilà pourquoi quand on loue Dieu, la présence de Dieu est là. Voilà pourquoi il est là. Et comme je disais il y a 15 jours dans notre culte de louange, des fois on parle de la présence de Dieu qui est là, mais ce n'est pas juste une atmosphère, ce n'est pas juste un nuage, ce n'est pas juste une impression. La présence de Dieu, c'est Dieu présent, c'est qu'il est là, ici, dans ce lieu. C'est ça qui est génial dans les temps où on adore Dieu. Et d'ailleurs dans la Bible, il y a un verset qui dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». C'est-à-dire un instant dans la présence de Dieu, ça vaut mieux que toutes les autres activités qu'on aurait pu passer ce dimanche matin ou d'autres moments qu'on vit chez soi, un instant dans sa présence, tout s'arrête, on est juste là devant lui, un cœur à cœur, on l'aime, on le laisse nous toucher aussi. Ça, c'est bon. Mais c'est aussi bon, je crois, quand on vit des temps d'adoration, de louange, c'est aussi bon parce qu'en fait, on est en train de vivre ce pourquoi on a été créé. On a été créé pour aimer Dieu, pour l'adorer, pour l'honorer. Et quand on le vit, et en plus collectivement, ben non seulement c'est fort parce que Dieu est là, mais aussi parce qu'on rentre dans la plénitude de ce pourquoi on est né. Et là, il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, il est dit dans Jean 4 que le Père recherche des hommes et des femmes qu'il adore. Et quand il en trouve, il est touché. Et son cœur est touché ce matin. Et avant de poursuivre, je sentais vraiment de prier pour que Dieu renouvelle en nous un esprit de louange, d'adoration. Alors, on l'a vécu ce matin, mais comme dans notre vie de tous les jours avec lui, qu'on puisse lui dire comme on l'aime, qu'on puisse l'exprimer. C'est ça qu'il recherche. Des hommes et des femmes authentiques qu'il aime. Et Seigneur, je te prie ce matin, merci pour ta présence dans ce temps de louange. Et je te prie de ranimer, de rallumer une flamme de passion pour toi, pour te louer, pour t'adorer, dans des temps ensemble, comme ce matin, ou dans les groupes, ou dans notre vie tous les jours. Seigneur, alors que tu cherches des adorateurs, des adoratrices, j'ai envie que, ben, quand tu te penches sur moi, tu dis, ah là, il y en a un. Seigneur, j'ai envie d'être un de ceux-là qui t'adore. J'ai envie que tu sois touché, parce que je te dis que je t'aime. Viens renouer dans nos cœurs, Seigneur, ce cœur d'amour, de louange, d'adoration pour toi. Amen.
Amen.
Et je sentais juste d'aller dans ce sens ce matin avant d'aller vraiment dans le message. Parce que quand on vit l'appel ou la mission de ce pourquoi on est né, il y a une plénitude, il y a vraiment, c'est tellement satisfaisant. Et en plus, ça honore Dieu. Et en tant qu'Église Passion, on désire vraiment aussi rentrer pleinement dans la mission que Dieu nous a donnée. Et qu'on a vécu en partie ce matin en louant. D'ailleurs, les premiers mois de l'année, on a axé nos messages, notre vécu sur le premier axe de mission qui vibre dans notre cœur, qui est justement d'amener toute génération à rencontrer Dieu et à cultiver sa présence. On a prêché sur la prière, sur la louange, pour aller plus loin dans la présence de Dieu. C'est vraiment l'appel qui vibre en nous. Et on a poursuivi pas mal de mois avec des messages qui allaient dans un autre axe de mission qui vibre dans notre cœur, c'est de conduire chacun, chacune à être transformé pour entrer dans un style de vie à l'image de Jésus. Et on a eu des messages sur le fait d'être transformé par l'amour de Dieu, d'être comme dans les mains du potier, ce vase, de vivre par l'esprit, les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit. Et on allait vraiment dans ce sens. Et on désire vraiment continuer ce processus qui est quelque part jamais terminé. En tant qu'Église, on a toujours envie d'être transformé, d'aller plus loin, en tant que personne, que Dieu continue de nous transformer, qu'on puisse rester vraiment malléable. Et on a un autre point de mission qu'on prendra plutôt dans une deuxième partie peut-être de ce semestre, c'est vraiment d'inviter toute personne à être passionnée, impliquée dans son appel, rentrer dans l'appel qu'on a et à se multiplier, à faire des petits dans ce qui vibre dans notre cœur. Et comme on l'a vu avec la louange avant, c'est Dieu, Dieu a une intention dans notre vie et quand on vit vraiment ce pourquoi on a été créé, c'est là qu'on rentre vraiment dans l'épanouissement que Dieu a prévu pour chacun. Et ce matin et ces prochains temps, on va se laisser imprégner peu par le dernier point de mission, et il y en a d'autres, par arrêter ça, mais qui vivent dans notre cœur en tant qu'Église, passion, et c'est vraiment d'amener chacun à entrer dans une culture du témoignage afin de rendre Dieu accessible. C'est bien parce que vu qu'il y a pas mal de monde, peut-être, il y a de l'interférence avec le Bluetooth, la télécommande. On ne va pas se laisser arrêter par ça. Et c'est pour ça que le titre de mon message ce matin, c'est « Briller ». Pour que ce qu'il y a vraiment dans notre cœur, c'est vraiment d'amener chacun à entrer dans une culture du témoignage et rendre Dieu accessible. Et ce message, ça lance un peu une nouvelle série qu'on va conjuguer de différentes manières, selon ce que Dieu a mis sur notre cœur, notamment aussi dans notre prochain culte dans 2 semaines. Je me réjouis beaucoup d'entendre Célia, qui va nous partager ce qui vibre dans son cœur. On le découvrira à ce moment-là. Comment elle brille, comment elle amène la lumière dans un domaine peut-être qu'on ne connaît pas, ça va vraiment être prenant. Je pense qu'il y a des choses que vous allez entendre, que vous n'aurez jamais entendues. On se réjouit beaucoup de l'entendre dans 15 jours. Mais ces séries de messages, ce n'est pas juste pour aligner nos points de mission dans une suite logique. Mais à un moment donné, quand on aime Dieu, quand on l'adore, quand on cherche sa présence, qu'on vit l'intimité avec Dieu, c'est la base, mais on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas rester comme on est. On va rentrer dans ce processus de transformation, on va se laisser transformer, l'onction de Dieu agit et il nous transforme à son image, toujours plus, mais on ne va pas s'arrêter là. À un moment donné, on va vivre d'une façon passionnée et rentrer dans l'appel que Dieu a mis sur notre vie, quel qu'il soit, et vivre ce pourquoi il nous a créé. Mais on ne va pas s'arrêter là, à un moment donné, on va vouloir le communiquer et transmettre cette vie, cette joie, cette paix qui nous amène, qui nous habite au-delà de nous. Et en tant qu'Église, on désire vraiment être passionné. Passionné de Dieu, c'est-à-dire passionné par Dieu, passionné pour Dieu. Mais cette passion, elle nous fait rencontrer la passion de Dieu. Et la passion de Dieu, je l'ai déjà guigné juste avant, c'est quoi? C'est le monde. La passion de Dieu, c'est le monde. C'est tous les gens qui sommes là ce matin, et puis c'est tous les gens qui ne sont pas encore là ce matin. Et comme j'avais cité une fois Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur philosophe du 20e, qui a dit... L'Église n'est pas l'Église, n'est l'Église que lorsqu'elle est là pour les autres. L'Église n'est Église que lorsqu'elle est là pour les autres. Et la passion pour Dieu, la passion de Dieu, plus on la vit, plus elle va nous amener à vivre la compassion. Une passion, un amour tourné vers Dieu et tourné vers les autres aussi. Et Jésus, il a vécu cette passion, cette compassion à fond. Comme on l'avait prêché l'an dernier, un peu au démarrage de l'Église, passion, on avait donné cette définition qui dit que la passion, en fait, le dictionnaire nous dit que c'est un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale, ou encore un amour intense. C'est quelque chose qui est fort, qui est là. Et en étant rempli, transformé dans nos pensées, mais aussi dans notre cœur, à l'image de Jésus, forcément, notre cœur, il va battre pour Dieu. Il va battre pour lui, il va battre aussi pour notre vie, pour nos projets, pour notre famille, pour notre vie. On a le droit d'avoir des buts, des désirs aussi à accomplir ici sur la terre. Mais il va aussi battre pour les autres. Il va aussi battre pour les autres. Pour lui en premier, mais aussi pour les autres. Et en étant touché par la présence de Dieu, touché par l'amour de Dieu, on ne peut plus être indifférent des autres gens. Ça va forcément nous toucher. Et pour aller plus loin et approfondir un peu cette culture du témoignage, j'aimerais qu'on prenne... un verset dans 1 Corinthiens 6, 19, qui dit « Ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et on prend en général ce verset pour parler d'être plus rempli du Saint-Esprit. Amen, c'est juste, hein, totalement. D'ailleurs, c'est marrant parce que le mot « temple », là, qui a été traduit en français « temple », en fait, c'est pas juste tout le temple, comme ça, comme un bâtiment, mais c'est la partie du sanctuaire. C'est le lieu très saint, ce mot « naos », c'est la partie lieu saint, lieu très saint. D'ailleurs, la racine de ce mot vient de « naio », qui veut dire « demeurer », « demeurer ». Donc, on est un temple, mais pas juste une simple habitation, mais un endroit où Dieu veut mettre un sanctuaire, habiter avec son Esprit Saint, sa vie, sa puissance en nous. Il y a vraiment ce désir qu'on puisse élever comme un autel d'adoration, on en revient, pour que Dieu puisse vraiment demeurer en nous. Et après, ce temple, en fait, un temple, ce n'est pas une boîte carrée. Et si fermée, en principe, c'est un bâtiment dans lequel on rentre. Je ne sais pas si vous visitez parfois des églises, je parle là dans le sens bâtiment, Alors nous, parfois, quand on est en visite, enfin, on visite une ville ou en vacances, alors on ne va pas faire le tour des églises, hein, je ne vais pas mettre dans Google Maps toutes les églises à visiter, mais si on passe à côté d'une belle cathédrale ou d'une église, souvent, dans une ville, ben, on se dit « Ah, tiens, on pourrait jeter un coup d'œil, parce qu'en général, c'est ouvert. » Puis on regarde dedans, sans forcément faire très long, ça permet « Waouh !» Puis des fois, on voit l'église, des fois, c'est magnifique, puis des fois, c'est austère, enfin, il y a plein de choses, bonnes et moins bonnes, mais souvent, vraiment, ça permet de sentir l'atmosphère, de voir comment c'est dedans. Et ce n'est pas toujours la même chose qu'à l'extérieur. Il y a parfois certaines villes, vous avez même des églises un peu dans des rues un peu collées, mitoyennes, des maisons mitoyennes, où vous voyez que c'est une église, puis quand vous rentrez, vous n'aurez jamais imaginé que c'était grand comme ça derrière, parce qu'on a juste vu la façade de devant. On voit juste l'extérieur, mais c'est quand on rentre à l'intérieur de ce bâtiment qu'on voit comment c'est dedans. Et ça peut être majestueux, c'est la décoration, l'espace qui peut nous toucher. Et lorsque Paul dit que nous sommes des temples du Saint-Esprit, je crois qu'il avait cette pensée que ben, notre vie soit remplie de la présence de Dieu, présence divine, qu'on soit une habitation du Saint-Esprit, que l'atmosphère intérieure de notre vie, ben, elle soit céleste quelque part. Mais il y a aussi, je suis convaincu, cette idée d'un temple, qu'un temple, on peut le visiter, on peut le découvrir, on peut sentir l'atmosphère, voir ce qu'il y a dedans. Et ce n'est pas la même chose quand on voit, visite un bâtiment d'église, de l'extérieur ou dedans. Et dans ce sens-là, je pense qu'on est vraiment appelé à être un temple ouvert. C'est mon premier point. C'est-à-dire une vie ouverte. Un temple du Saint-Esprit, mais qu'on peut visiter. Les gens peuvent comme visiter qui on est. Découvrir, ressentir ce qu'il y a en nous. Et il y aura tant l'atmosphère intérieure du temple, de notre vie. Mais comme dans un temple normal, un bâtiment, il y a une porte, une ouverture. Et je ne parle pas forcément d'être ouvert comme quelqu'un qui est extraverti. Ce n'est pas un problème pour lui d'être porte ouverte 365 jours. Non, ce n'est pas de ça. Mais parfois, on peut vivre notre foi comme un trésor, presque comme un secret, comme si la porte était fermée ou entre-fermée. Et du coup, les gens, ils verront peut-être notre temple de l'extérieur. Ils verront les vitraux un peu allumés, ils verront qu'il y a de la lumière peut-être un peu dedans. Ou ils entendront des fois un peu le son de la musique intérieure pour reprendre cette image de bâtiment de temple. Mais rien ne va marquer les gens autrement que s'ils peuvent rentrer dans ce temple et voir notre vie, et voir notre vie. Et un acteur, je vais juste dire une citation, ça ne valide pas toute sa vie, enfin, je ne sais pas ce qu'il a fait de bien ou pas bien, mais en tout cas, l'acteur Anthony Hopkins a dit la chose suivante, « Nous vivons dans un monde où les funérailles sont plus importantes que les morts, le mariage est plus important que l'amour, l'apparence est plus importante que l'esprit, nous vivons dans une culture de l'emballage qui méprise le contenu. » Et pourtant, ce qui compte, ce qui va véritablement toucher le monde qui nous entoure, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Pas juste l'emballage de notre personne. Alors ça aide, si la personne est sympathique, si on est cool, on va pouvoir amener un bon message. Mais ce qui va marquer les gens, c'est ce qu'il y a dedans. Le temple qu'on est, c'est quand ils peuvent, quand la porte est ouverte et qu'ils peuvent visiter. Quand il n'est pas fermé, ni cadenassé. Et je pense que c'est cette idée-là dont parle Jésus, quand il dit dans Marc 4, 21, quand quelqu'un apporte une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau ou sous un lit. Au contraire, il la place bien haut sur son support. Et c'est Jésus qui dit ça. C'est comme ça qu'on va briller et que la lumière qui est en nous, elle va se propager. Et Charles Spurgeon, qui était un grand prédicateur au 19e siècle, qui a dit la chose suivante, attention, ça pique. Il a dit, si tu n'as pas le désir d'amener les autres au ciel, c'est que tu n'y vas pas toi-même. C'est pas moi qui dis ça, c'est juste quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas le désir d'amener les autres au ciel, c'est que tu n'y vas pas toi-même. Même si nous cherchons Dieu premièrement pour lui, pour l'aimer, qui nous fait du bien, qui nous guérit, qui nous transforme, qui nous comble, et c'est ça qu'il désire, qu'on soit, on est ses chéris, on est ses enfants, il veut le meilleur pour nous, mais il veut remplir nos vies et de sa vie pour que les gens puissent goûter à cette vie. Et ça, c'était vraiment le premier point que je voulais vous partager ce matin. Que ma vie soit un temple ouvert, avec des portes grandes ouvertes, que je sois visitable. Qu'on arrive un peu à ce deuxième aspect que j'aimerais partager, qui vibre fort aussi dans notre cœur de l'Église Passion, c'est que notre temple soit accessible. Un peu plus que celui-ci. Là, il faut presque être alpiniste pour y aller. Hein. On désire toute la plénitude de la présence de Dieu, mais nous voulons aussi qu'on puisse y entrer facilement. Qu'on puisse vivre des temps forts ensemble dans la présence de Dieu, mais que ça ne soit pas juste pour les initiés, pas seulement pour les quelques personnes qui savent comment gravir cette paroi. Sinon, ça n'a pas de sens. On aura appelé ça l'église Via Ferrata, pas l'église Passion. Hein? Mais si c'est le cas pour l'église, rappelons-nous que l'église, c'est toi, c'est moi, c'est ma vie. Je désire aussi être accessible. Et moi, j'aimerais vraiment dans ma vie chérir cette présence de Dieu, comme on l'a pris au tout début, être un adorateur, vivre des temps intenses avec le Saint-Esprit. Mais je désire aussi que je sois accessible et que les gens puissent aisément découvrir ce qu'il y a en moi, l'intérieur de ma vie, l'intérieur de mon temple, l'atmosphère de Dieu en moi. Et il y a quelques pistes pour ça. Notamment, simplement d'avoir une foi qui est simplement naturelle. Ce n'est pas une partie bizarre de ma vie de croire en Dieu. C'est plutôt étonnant de ne pas y croire, que tout soit fait par hasard comme ça, que tu regardes la nature ou autre. C'est naturel de croire. Et puis de parler de Dieu, puis juste de vivre ce qu'on vit. Et je crois que le fait que ça soit une fierté de croire en Dieu, de le connaître, qu'on soit connu de Dieu, qu'il nous parle, et pas une honte, ça fait toute la différence. Quand tu es fier de Dieu, ou fier de ce qui se vit dans l'Église, c'est pas un souci d'en parler, parce que tu aimes Dieu et que tu vis des bonnes choses. Ah, tu sais, moi, le week-end passé, on a un week-end, un pique-nique. Après le culte avec l'Église, on est au bord du lac, on a mangé, c'était super sympa. Et puis, ah bon, on avait fait un pique-nique, il n'y a pas que des vieux dans l'église. Enfin, mais non, mais tu sais, j'ai envie des super temps. Si tu venais voir une fois, tu sais, on a un bar à l'entrée, là, on a de la musique, c'est actuel, quoi. C'est il y a des gens, des jeunes, il y a plein de gens. Puis les gens sont là, ah ouais, c'est cool, ouais, j'ai un bon dîner, il faut voir. Quand on parle, puis qu'on est fier de ce qu'on vit, c'est pas un souci. Mais quand on trouve un peu bizarre, tu sais, non, t'étais où dimanche? Voilà, chef, j'ai rencontré. On a peur presque de dire qu'on était un culte. Les gens vont trouver particulier, bizarre, quoi. Ils ne vont jamais venir ou jamais découvrir ce qu'il y a en nous, qui en fait tellement cool, c'est tellement bien de vivre, se revoir dans une famille, pouvoir prier les uns pour les autres dans les maisons, louer le Seigneur, c'est génial. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ça, ils attendent que ça. Et quand on est naturel, puis qu'on parle avec joie de ce qu'on vit, en général, les gens sont plutôt intéressés, en tout cas, ils sont admiratifs, qu'un jour, ils viennent voir. Et une autre piste pour que la porte de notre vie soit ouverte, bah, c'est d'être passionné. C'est pas d'être passionné, passionné de Dieu, passionné de la famille de Dieu. Parce que quand on est passionné, notre vie est passionnante. Et ça intéresse les gens. Quand on est passionné de quelque chose, ceux qui sont passionnés de voile, de montagne ou autre, c'est pas un souci de foot, c'est pas un problème d'en parler. Ça intéresse les gens. Quand on est passionné par ce qui se passe, les gens sont intéressés. Et si on est heureux de notre foi, heureux de notre vie d'église, on n'a pas besoin d'être gêné d'en parler. Ça a vraiment un jour été comme un déclic dans ma vie, et puis de me dire, ben oui, finalement. Et puis après, on voit que c'est souvent des fausses peurs qui font qu'on a des fois peur de parler de ce qu'on vit, tout simplement. Quand tu es enthousiaste, les gens sont enthousiasmés par ce que tu vis. Ils voient que tu es heureux, ils comprennent pourquoi tu as le sourire. Si tu as un peu honte, ils vont trouver ça bizarre. Alors moi, je ne suis pas du genre évangélisation frontale, comme on appelle. Chacun ses dons, ses tempéraments. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller à la zone piétonne, taper sur l'épaule de quelqu'un pour dire « Tu connais Jésus ?» Même si c'est bien, si vous avez ça à cœur de le faire, c'est super. Des fois, c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort. Hein. Moi, j'ai quand même une fois déjà été debout sur une chaise à la place du marché à Neuchâtel, rempli de terrasse avec un micro en train de raconter mon témoignage et d'annoncer le salut. J'ai fait ça, je n'ai pas été lapidé, je suis encore là aujourd'hui. Je ne suis pas mort physiquement, mais quand même un petit peu intérieurement. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler ce matin, quand je parle de briller, même si vous avez ça à cœur, pourquoi pas. Mais lorsqu'on est heureux de ce qu'on vit, on en parle naturellement. Tout simplement parce qu'on a une joie dans le cœur, on ne veut pas la cacher. L'intérieur de notre temple, c'est-à-dire Dieu, ça fait partie de notre vie. Et puis on peut dire, mais tu sais, moi j'ai aussi quelqu'un peut-être qui vit quelque chose de difficile, tu sais, moi j'ai aussi vécu des temps pas faciles. Mais heureusement, j'ai pu prier avec des amis, on a prié Dieu, ça m'a donné une paix, ça m'a vraiment aidé dans ce que j'ai vécu. Ou dire, ah, l'autre jour, on a un petit groupe là dans l'église, groupe ressources, quelqu'un avait mal à la tête, on a pu prier pour elle. C'est parti, c'est génial. Tout à coup, on parle naturellement. Les gens, ah ouais, tu pries. Les gens sont tellement ouverts à n'importe quelle chose bizarre, mais quand on parle de ce que Dieu fait dans nos vies, les gens sont vraiment aussi souvent ouverts. Ça devient naturel, c'est normal. C'est pas juste un poste dans l'agenda où on va mettre évangéliser. Non, c'est quelque chose qui vient, qui vient pas. Il faut simplement être là où on est. Un temple qu'on peut visiter. Un temple aussi qui va sur la durée. J'ai bien aimé cette pensée de l'escargot qui laisse une trace. C'est pas instantané, c'est la durée. Finalement, que les gens vont voir notre vie. Qu'est-ce que ça amène? Un petit peu comme la Sagrada Familia à Barcelone, qui n'est jamais finie. sais pas si elle sera finie avant le retour du Seigneur. En tout cas, elle n'a jamais fini d'être construite. Mais pareil, notre vie, on n'est jamais... Le temple qu'on est, j'espère qu'il n'est jamais terminé. On continue de grandir pour avoir toujours plus la présence, la passion de Dieu en nous. Notre vie est un message. On laisse une trace. Du côté de la famille de ma femme, ils ne sont pas encore chrétiens. Et lorsqu'on s'est mariés, Diane, elle avait 20 ans. Moi, j'avais 24 et quelques. Donc, ça fait quoi, 4-5 ans, comme ça? Non, je rigole, on a fêté nos 24 ans lundi passé de mariage. C'est pas pour ça que je disais ça. Mais sa famille, lorsqu'ils nous ont vus mariés, elle, comme ça, jeune, nous engager dans le ministère, ils nous ont regardés. Et avec les années, ça parle à un moment donné. Ils ont vu notre vie comme un livre ouvert. Ils ont vu comment on a grandi, comment on a évolué. Ils nous ont vu dans les bons moments, notre mariage, la naissance de nos 4 enfants. Ils nous ont vus dans les épreuves, les décès dans la famille, perte de travail et autres. Ils ont pu lire notre vie. Et ça parle des fois beaucoup, souvent plus que des mots. Et il y a quelques mois, une personne justement de cette famille, tout à coup, elle nous a mentionné comment elle a été marquée par notre famille, par notre vie de famille sur la durée. Ça nous a vraiment touchés avec Diane. Parce qu'on ne se rend pas compte que les gens nous regardent, qu'ils lisent notre vie, pas juste instantanément, mais aussi sur le temps. On se sent tellement imparfait, tellement humain. Mais notre humanité, notre vulnérabilité, nos erreurs, la façon dont on se relève, ça touche les gens. Puis ils découvrent ce qui fait notre force, en fait. Ils voient si la construction, elle tient le coup, si elle se développe ou si elle se délabre. Ils voient si on est fidèle à nos valeurs. Puis ils visitent l'intérieur de notre temple et ils sentent l'atmosphère, ils sentent qu'il y a quelque chose, qu'il y a une paix, qu'il y a une joie, il y a quelque chose qu'ils ne connaissent peut-être pas. Bien plus que les discours. Et notre authenticité et notre passion, ça fait la différence. Quand tu vois qu'on est authentique, on ne met pas un masque, tout va toujours bien, mais ils voient l'intérieur, on ouvre notre cœur, et ça fait la différence. Et comme on l'a vu avant, ce n'est pas l'emballage qui touche les gens, mais c'est le vrai. C'est le vrai, c'est comme on est. Et moi, ce qui me frappe dans l'exemple de Jésus, dans son style de vie, j'aime tellement toujours revenir à Jésus, comment il était... sur la terre et comment il est maintenant, mais il ne s'est pas dit « Ah, il faudrait que j'organise un repas, puis je pourrais parler du Père. » Non, il est dans un repas, puis naturellement, ça se passe. Soit par un miracle, parce qu'il n'y a plus de vin, ou bien autour de la table, tout à coup, une femme lui casse un vase de parfum, puis tout à coup, de ça, il en fait un enseignement, qui tac, ça touche les cœurs, c'est percutant, pertinent. Alors c'est bien d'être intentionnel, parce que si Jésus était resté tout le temps dans son salon avec sa tablette, et pas pour les tablettes, mais la tablette des lois de Moïse, peut-être à l'époque, je ne sais pas. Ben, il n'aurait pas eu de contact avec les gens s'il était toujours resté chez lui. Il vivait normalement dans la société dans laquelle il est né. Mais sa relation avec le Père, d'être rempli de la présence du Saint-Esprit, ça lui permettait de faire la différence naturellement, normalement, là où il était. Que ce soit dans un conflit. Tout à coup, il y avait un conflit, il y a des gens qui essayent de lapider une femme adultère, il y a de la tension dans l'air, et de là, il arrive, puis il a juste la pensée qu'il faut, il dit juste les mots qu'il faut. Les gens, ils repartent tous, puis cette femme est complètement touchée par Dieu. Ou que ce soit un souper de mariage, comme je l'ai dit avant, ou bien dans un bateau en train de couler avec une tempête. Il a juste le mot qu'il faut, mais il est là, il y est vraiment. Et ce qui vibre dans nos cœurs, c'est non seulement de chercher Dieu ensemble et de vivre des moments forts, mais aussi de le partager autour de soi. Mais on va le partager pas par un programme, bien que des fois, il faut aussi des outils, il faut aussi se donner les moyens. Peut-être qu'on va des fois organiser quelque chose ici dans le cadre de l'église, ou bien soi-même, inviter peut-être quelqu'un. Si on n'invite jamais notre collègue pour parler peut-être une fois hors du travail, on pourra peut-être jamais aller plus loin. Des fois, il faut être intentionnel. Mais surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est surtout par une passion et un style de vie que ça va faire la différence. On parle de Dieu pas parce qu'il faut, mais parce qu'il est là. Parce qu'il est là dans l'église, j'espère, et toujours plus, c'est ce qu'on veut en tout cas, c'est la priorité. Et parce qu'il est là. Parce qu'il est là dans ma vie, parce qu'il est là dans mon cœur, parce que le Saint-Esprit peut prendre la place. Puis s'il a envie de parler, il parle. S'il a envie de guérir, je peux être disponible de proposer à quelqu'un de prier pour lui, parce qu'il est malade. Quand on est proche de Dieu, qu'on goûte à sa présence, c'est tellement bien qu'à un moment donné, on a juste envie aussi que la personne, elle puisse goûter à ça. Parce que c'est bien. Si à votre travail, vous amenez chaque fois des truffes qui sont tellement bonnes, à un moment donné, vous avez quand même envie que la personne, votre collègue, goûte une fois combien c'est bon. Qu'il aille dans la même pâtisserie, je ne sais pas. Mais c'est une mission. Et on parle même de l'ordre missionnaire. C'est vraiment impératif de Jésus qui dit « Mais allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les, allez communiquer la bonne nouvelle. » Mais ce n'est pas une mission qu'on reçoit comme un message, un peu comme Tom Cruise qui reçoit un truc bizarre dans Mission Impossible et puis il doit vite lire en 30 secondes parce que ça va s'auto-détruire le message et après il peut l'accepter ou non. Mais cette mission, ce message, il vit en nous. C'est quelque chose qu'on va incarner, qui va être là en nous, qui nous habite, qui naturellement ça va émaner. Et c'est vraiment, c'est mon troisième point, d'être un temple de bonne odeur. Jésus, il dégageait cette vie. Et les gens venaient à lui, tout simplement. Et j'avais l'image qui n'est pas très glamour, mais plus tu manges de l'ail, plus ça va se savoir. Chez nous, on aime bien les... Je ne sais pas vous, mais les apéros, tu prends des olives à l'ail, tu achètes en vrac au marché, c'est super bon. Hein. Et puis, par contre, des fois, en tout cas, là où on va au marché, il y a des olives qui sont bien apprêtées, sauce à l'ail. Il y a aussi des fois des petites gousses d'ail, hein, qui laissent dedans pour laisser le goût, c'est un peu tentant. Hein. Tu manges, c'est bon. Hein. Ou dans la fondue, c'est pas tellement la saison maintenant, mais des petits bouts d'ail dans la fondue, puis à un moment donné, tu vas même à la pêche, hop, t'as chopé un petit bout d'ail, c'est excellent. Hein. Enfin, pas tout le monde aime. Mais... Et tu vas à la pêche, quoi, c'est un peu la pêche miraculeuse, quoi. Aïe, aïe, aïe. Hein. Mais à un moment donné, plus tu manges de l'ail, plus ça va se savoir. C'est clair. Au début, c'est juste ton conjoint qui le sait ou tes amis proches. D'après, à un moment donné, c'est quand même tes collègues qui vont le savoir. Ça, moi, j'ai attendu à midi, t'as coupé dans les gousses, c'est tes collègues. Et après, c'est tes amis, tes connaissances. À un moment donné, ça va se savoir, le cercle va s'élargir. Et tu vas finir par émaner non seulement un parfum buccal, mais tu vas même transpirer. On transpire carrément presque l'odeur de l'ail. Hein. Tu vas incarner l'ail jusqu'au bout des ongles. En fait, tu deviens une gousse d'ail vivante, quoi. Donc, quand on se voit en groupe ressources, ça, c'est un groupe ressources. C'est marrant, mais je trouve que c'est une bonne image de l'Évangile, quelque part. Parce que le message de l'Évangile, notre relation avec Dieu, en la vivant pleinement, ben, elle a du piquant. Elle a de l'odeur. Elle n'est pas insipide. Elle ne passe pas inaperçue. Et si je baigne dans la présence, entre guillemets, que je mange Dieu, que je m'imprègne de sa parole, que je suis là dans la louange, j'ai des temps personnels, collectifs, et puis que je me nourris de Dieu, comme l'ail à toutes les sauces, ça va se savoir, ça va se sentir, je vais même transpirer cette joie, cette paix, cette vie dans ma vie de tous les jours, et je vais émaner une odeur particulière. Plus je vais prendre du temps avec Dieu, tout à coup, ben, ton conjoint va le savoir, il va se rendre compte que tu es en train de vivre un petit réveil intérieur, puis tu prends du temps avec Dieu, peut-être qu'il n'avait même pas remarqué ou il n'avait pas remarqué. Tes amis vont peut-être le voir, d'autres vont s'en rendre compte. Tes voisins, à un moment donné, ou tes collègues vont se rendre compte que tu vis quelque chose qui est quand même étonnant en toi. C'est forcé parce que comme l'ail, le message de l'Évangile, la présence de Dieu en moi, à un moment donné, elle n'est pas sans odeur. Mais elle a du goût, elle dégage une odeur. D'ailleurs, 2 Corinthiens 2, 14 nous dit que Dieu soit remercié. Lui qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Et ça poursuit en disant, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. On est cette bonne odeur parce qu'on est imprégné de sa présence et ça se communique. D'ailleurs, c'est le même mot qu'ils auraient pu mettre, on est le bon parfum. Ça veut aussi dire parfum, ce mot qui a été traduit par odeur. Donc, quand on met du parfum, on n'a pas besoin de dire j'ai du parfum. Non, ça sent tout naturellement. Si Jésus habite dans ta vie, tu n'as pas besoin de dire j'ai Jésus en moi ou Jésus t'aime, même si parfois peut-être qu'on a bien à le dire, mais il n'y a pas besoin de le faire. C'est comme le parfum, ça sent, ça va se sentir. Si vraiment, j'allais dire, tu t'es pchité de la présence de Dieu. Ça va se sentir, on va dégager quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas que Charles Spurgeon, que j'ai cité avant, qui ne va pas par quatre chemins, mais Jésus, lui aussi, il est plus que piquant. Quand on regarde dans Matthieu 5, quand il dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté et piétiné par les hommes. » Ça, c'est assez trash, même, ce qu'il dit. On est appelé à être le sel de la terre, mais si on n'a plus de saveur, on n'a plus qu'à être... Et il poursuit en disant « Vous êtes la lumière du monde », c'est genre 10 versets que j'ai déjà lu au début, Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière de parler, que votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de Dieu. Simplement par notre manière d'être, d'agir, ils vont voir cette lumière briller. Et c'est ça le message de Jésus. Et quand je lis ça, moi je crie à Dieu, puis je dis, Seigneur, donne-moi cette saveur. Donne-moi un cœur aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donne-moi un cœur pour toi, pour la famille, ou pour ceux qui ne savent pas encore qui font partie de cette famille. Et un temple, ça commence par être rempli. Et un temple rempli de la présence de Dieu, s'il n'est pas ouvert, ben c'est un musée fermé, personne ne va découvrir grand-chose. Comme dans un musée, il y a beaucoup de belles choses, mais qui ne sont pas forcément utiles dans la société, dans la vie de tous les jours. Alors si vous êtes gardien de musée ici ce matin, ce n'était pas pour vous offenser. Mais un temple rempli de la présence de Dieu, mais s'il est fermé, il ne va pas servir à grand-chose. Mais à l'inverse, un temple ouvert, mais sans la présence de Dieu intense, c'est comme un hall de gare vide avec des courants d'air. On peut y venir, ça ne va pas changer notre vie. On ne va pas découvrir grand-chose. En fait, Dieu, il désire qu'on ait les deux. Il désire qu'on soit un temple rempli de sa présence, comme on disait, un temple, naios, c'est-à-dire un sanctuaire, un lieu très saint où le Saint-Esprit habite. Et un temple ouvert, et ouvert, pour que les gens puissent nous visiter et que Dieu puisse toucher les gens. Et Dieu désire nous donner un peu cet équilibre, pas un équilibre qui s'annule, où finalement il n'y a plus rien. Vous avez déjà vu ces vieilles balances qu'on voit d'ailleurs aussi au marché. Or si vous mettez par exemple trop d'oranges et puis que ça penche, l'inverse de ça, on se dit ah ben j'enlève une orange. Puis après vous voyez que ça penche trop, vous dites ah ben alors j'enlève un poids. Puis après ah non ben alors j'enlève encore une orange. Puis finalement on essaye d'être équilibré, puis t'enlèves tout parce que comme ça elle est parfaitement équilibrée. Donc des fois il y a un équilibre qui peut tuer la vie. Et puis il n'y a plus rien, parce qu'à chaque fois on enlève un petit peu. En fait, moi j'aimerais l'équilibre où tu rajoutes. Si tu vois que ça penche du côté de l'orange, tu dis, je vais rajouter du poids ici. Si ça penche trop de ce côté, tu rajoutes encore une orange. Ainsi de suite, on verra jusqu'où on peut aller. Et je crois que c'est ce double aspect qui vibre dans nos cœurs. Une passion pour la présence de Dieu, mais une passion pour les gens aussi. Et je crois qu'on peut le vivre pas au détriment de l'un de l'autre. Et je réalise que si dans ma vie je suis un peu déséquilibré et puis que j'ai avec la passion pour les gens de communiquer d'une façon pertinente la vie, je ne vais pas ôter les oranges en atténuant ma passion pour Dieu, en prenant moins de temps d'adoration pour le Seigneur. Non, je ne vais pas ôter quelque chose, je vais rajouter, je vais dire, je vais utiliser ces pistes. Seigneur, j'ai envie d'être plus ouvert, plus accessible, j'ai envie de vivre naturellement les choses. La même chose, si je suis quelqu'un qui a le contact très facile, mais j'ai besoin encore que j'ai ce sanctuaire, ce lieu très saint où le Saint-Esprit soit en moi, je ne vais pas me dire « Ah, faut que je parle moins aux gens, mais il faut que je cherche plus Dieu. » Non, on va continuer à avoir super contact avec les gens, mais chercher Dieu, chérir ce temple qui est en moi, pour qu'il y ait une consistance, la présence et la puissance de Dieu. Un équilibre par le haut, pas un équilibre qui annihile. Annihile, ça veut dire réduire à néant, qui est à rendre sans effet. Parce que par exemple, un hérisson, il est équilibré. Il a les yeux presque au même niveau que les pattes. Mais même si sa vie manque pas de piquant, il voit pas grand-chose dans sa vie. À part de temps en temps, peut-être une roue de voiture. La girafe, elle peut paraître déséquilibrée, un peu difforme. Mais elle a un équilibre par le haut, parce qu'elle va toujours plus haut pour manger, pour trouver des arbustes. Elle va toujours plus haut. Par contre, si elle veut être à ras-le-terre, terre à terre, ou boire, elle peut aussi, hein, elle écarte ses jambes. C'est une girafe qui boit, c'est assez drôle quand même. Le conformisme va toujours essayer d'annihiler, de nous équilibrer par le bas pour qu'il n'y ait plus de vie, mais qu'on puisse oser avoir ce long cou qui va chercher la présence de Dieu, d'avoir la tête au ciel, tout en étant vraiment concret, les pieds sur terre. Et c'est l'exemple que j'aime bientôt terminer, mais que j'aime revenir sans cesse, qui est Jésus. Lui, c'est vraiment en étant terre à terre, très terre à terre, que le ciel s'est manifesté, comme je l'ai dit avant. Mais quand quand il demande à voir la Samaritaine, il demande de l'eau, il n'y a pas plus terre à terre. Et tac, il parle de l'eau de la vie, et finalement il prophétise, et puis elle se convertit, et son village. Lorsqu'il n'y a plus de vin, c'est très terre à terre. Hein, en fait, il n'est pas allé prier 30 minutes à l'écart. La connexion avec le Père, il l'a. Et il dit, alors cherchez ces jarres, remplissez-les d'eau. Et puis ils le font, et ça se passe. Naturellement, il a eu un impact en vivant les choses dans le naturel. Et Jésus, il n'est pas devenu moins humain pour être davantage connecté avec le Père. Il a continué à vivre avec ses disciples, dès qu'il était incrédule, dès qu'il était malhonnête, de manger chez les uns, de mauvaise vie chez les autres, de rencontrer, d'être au milieu de la foule. Il n'est pas devenu moins spirituel pour être plus accessible avec les gens. Il a soigné son intimité avec le Père, il allait sur la montagne, il allait à l'écart, il priait, même quand ses disciples s'endormaient de ça. Mais Jésus était véritablement passionné du Père. Déjà à 12 ans, il disait à ses parents, « Mais il faut que je m'occupe de parler du Père. » Il aimait tellement son Père qu'il faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Il obéissait, il allait dans cette direction. Mais il était tellement passionné des gens aussi, vu tout le temps qu'il passait avec du monde, parce qu'il aurait pu être un peu une sorte d'ermite dans le désert, puis les gens venaient un peu à lui, puis après 2-3 ans, il donnait sa vie. Non, il était tout le temps avec du monde. Il a baigné dans la vie de l'époque. Il était avec la foule, il aimait les gens, il se laissait bousculer. C'était un peu la fête des vendanges tout le temps. Les gens le compressaient. Quand on voit cette femme, tout à coup, qui le touche, ou tout à coup, ils doivent amener un paralytique par le toit de la maison parce qu'on n'arrive même plus à accéder. Il y avait des gens partout, c'était l'émeute. Il se passait tellement de choses. Il n'a pas juste obéi au Père en renonçant pas à l'atrocité de la croix, mais il l'a fait par amour pour les gens et par amour pour le Père. Il savait que le Père voulait sauver le monde, mais lui, il aimait tellement les gens. Et en conclusion, ce qui vibre dans nos cœurs, dans mon cœur et dans notre cœur en tant qu'Église Passion, c'est justement de chercher Dieu, de se laisser transformer à l'image de Jésus, mais justement pour être ce témoignage ouvert que les gens peuvent lire, qui va toucher les gens. Et c'est le revivaliste John Wesley qui a dit « Le monde est ma paroisse », c'est-à-dire « Le monde est mon Église », c'est-à-dire tous les gens qui connaissent pas encore Dieu, c'est aussi des gens que Dieu veut toucher. Le monde, c'est les gens qui ne savent pas encore qu'ils font partie de notre famille. Ils ne savent pas encore qu'ils font partie d'une famille qui peut avoir un contact avec Dieu le Père, qui a donné son Fils, qui a sa présence, qui ont trouvé des frères et sœurs et des amis. Et pour cela, ils cherchent pas juste qu'on mette de l'équilibre dans nos vies, mais ils désirent qu'on puisse sur le poids de la balance. Si on est quelqu'un qui prenne beaucoup de temps avec Dieu, mais qui ne partage pas trop, qu'on puisse dire, ben, moi, je vais offrir davantage ma vie. J'ai envie d'être plus accessible aux gens. Et peut-être, si tu as le contact facile, dire, moi, il faut que je prenne aussi du temps avec Dieu, davantage, pour que quand je parle aux gens, il y ait cette bonne odeur, que les gens sentent qu'il y a quelque chose de différent. Et je crois que l'appel de Dieu ce matin, ce n'est pas juste qu'on essaye un peu d'avoir plus de ça dans nos vies, mais c'est de rencontrer Jésus. Moi, j'ai envie de prier pour que Jésus se manifeste. Parce que Jésus, il avait une connexion avec le Père, des pensées qui venaient du Père. Il dégageait la présence de Dieu simplement et les gens venaient à lui. Et puis il était tellement ouvert, tellement rempli de compassion, tellement avec les gens. Et moi j'ai envie que cet esprit de Jésus habite dans ma vie. Je propose qu'on se lève tous ensemble et je vais prier pour terminer ce message. Seigneur, on ne veut pas juste rééquilibrer notre vie en étant soit plus ouvert ou soit à chercher plus ta présence, même si c'est ce qu'on veut. Un équilibre par le haut. Moi, je désire plus de ta présence. Je désire être ce temple rempli par toi. Je désire aussi que ma porte de ma vie, elle soit ouverte, que les gens puissent sentir ce qu'il y a en moi, c'est-à-dire toi, toujours plus. Mais Seigneur, on veut surtout être touché et impacté par toi, Jésus. Parce que toi, tu avais cette vie, cette puissance. Tu avais ce contact facile, tu avais ce charisme. Les gens étaient simplement scotchés quand tu prêchais, quand tu parlais. Ils avaient envie de découvrir ce qu'il y avait. Quand tu parlais de façon mystérieuse, comme avec des paraboles, ils voulaient comprendre. Il y avait quelque chose. Seigneur, je désire, Jésus, que tu viennes toucher nos vies. Tu viennes prendre plus de place en nous. Que le temps de ma vie soit rempli de ton esprit. Pour que quand les gens me voient vivre, quand je parle de choses et d'autres, ils puissent sentir que tu es là. Ils puissent sentir qu'il y a quelqu'un en moi, qu'il y a autre chose. Alors Seigneur, je te prie que tu ôtes aussi toute crainte, toute honte qu'on pourrait avoir de ce trésor que tu es, puis qu'on puisse être simplement normaux, naturels, passionnés, fiers d'être un enfant du roi, un enfant de Dieu vivant. Et viens mettre en nous cette fierté, viens mettre en nous cet amour, viens mettre en nous cette joie, cette paix. On ne doit pas partir à la mine, on doit juste être qui on est, rempli de ta vie. Ça se dégage. Seigneur, on ne veut pas manger de l'ail, mais on veut manger ta présence. On veut plus de toi, Seigneur. On veut communiquer plus loin. Alors, Seigneur, fais de nous des passionnés de toi, mais fais de nous aussi des passionnés pour le monde, comme tu l'étais. Amen.